France Inter.
Le 13-14, Jérôme Cadet.
Bonjour à tous et bienvenue au sommaire aujourd'hui. Nuit de terreur à Kiev, la capitale ukrainienne subit l'un de ses plus violents bombardements de la guerre. Au moins 14 morts. La France sous les orages, reportage dans le vignoble de Bourgogne, et ces communes qui ne serviront plus de thon à leurs enfants à la cantine. Trop de mercure, disent-elles. À 13h30, deux profs en invité à quelques jours de la rentrée. L'une fait sa première rentrée, l'autre sa dernière. Nous confrontons les points de vue. Et puis juste avant 14h, vos rendez-vous, c'est la France, et c'est une chanson dans un 13-14 une nouvelle fois perturbée par la grève qui touche les antennes de Radio France. Merci de passer cette heure avec nous.
France Inter.
Près de 600 drones et 31 missiles lancés sur l'Ukraine la nuit dernière. Une attaque massive de la Russie qui a durement frappé Kiev, la capitale, pourtant dotée d'importantes défenses aériennes. Et c'est un immeuble d'habitation qui a été le plus touché. Bilan au moins 14 morts, dont 3 enfants. Notre journaliste à Kiev, Bastien Boris, est rendu sur place.
Chez Yulia, l'air est encore chargé de poussière et le craquement des débris sous les pas de cette retraitée réveille l'écho du vacarme.
Quand le premier missile est tombé, il y a eu une déflagration énorme. J'ai eu l'impression que le plafond me tombait dessus. Tout a explosé, jusqu'au mur. Regardez là-bas, les fenêtres sont totalement en miettes.
La nuit dernière, sa fille Valentina dormait dans la chambre d'amis.
À ce moment-là, ma fille m'a dit « Maman, je ne vois plus rien, appelle une ambulance ». Elle ne pouvait plus bouger, il y avait des gravats partout. Et elle ne pouvait pas sortir par le balcon parce que la fenêtre aussi était bloquée.
Encore secouée, Yulia s'appuie contre un mur fendillé. Son arcade saigne toujours.
J'ai essayé d'ouvrir la porte d'entrée, mais elle était coincée. Impossible d'appeler une ambulance, impossible de faire quoi que ce soit. On ne savait même plus où étaient nos téléphones. Tout a volé en éclats.
Elle et sa fille ont été extraites par des voisins tôt ce matin. Dehors, les secours s'affairent encore à trier débris et morceaux de drones dans ce quartier de l'ouest de la capitale enveloppé par l'odeur de la poudre. Kiev, Bastien Boris, France Inter.
Un bâtiment de l'Union européenne à Kiev a également été endommagé. Moscou dit avoir touché simplement des cibles militaires en Ukraine. Le président français Emmanuel Macron dénonce, lui, la terreur et la barbarie de la Russie. Fin de citation. La France insoumise refuse l'invitation de François Bayrou lundi à Matignon. Nous n'avons pas l'intention de participer à l'opération de sauvetage que le Premier ministre tente, commente ce matin son coordinateur Manuel Bompard. De fortes pluie ce matin sur les départements du Var et des Bouches-du-Rhône. En Bourgogne, les orages ont fait de nombreux dégâts hier en Saône-et-Loire. Et voilà qui ne fait pas bon ménage avec les vendanges en cours. Illustration à Corgoloin en Côte d'Or, Lucas Chelminiac.
Sécateur en main, Gabriel coupe le raisin. Pas facile de vendanger par temps de pluie.
On est trempé, on a froid, ça fatigue plus, c'est plus compliqué. Les vêtements, ça pèse plus lourd, le seau, il est rempli d'eau, donc c'est plus compliqué.
La terre de vigne, quand il pleut,
c'est collant, c'est affreux. Ça monte jusqu'au-dessus de la semelle, puis on traîne sous les pattes un sacré paquet de boue, donc c'est ça qui dure aussi.
Dans le rang d'à côté, Philippe Cordonnier, patron du domaine, sait que la pluie ralentit ses troupes, mais le vrai problème reste les orages et surtout la grêle.
Ça peut éclater les baies, et puis après, voilà, si on a de la chaleur derrière, c'est sûr, ça peut être un peu compliqué. Donc faut y ramasser très très vite derrière pour avoir le moins de pertes possible.
Dangereux pour le raisin, mais aussi pour les vendangeurs. Sébastien vient de Normandie chaque année depuis 6 ans pour vendanger chez nous.
Comme il y a des fils conducteurs dans les vignes, il suffit qu'on peut se faire foudroyer dans les vignes. À nous, on touche à la ferraille, ça c'est la ferraille, ça c'est de la ferraille, tout est en ferraille. Les choux, tout.
Et dans ce cas-là, ils ne prennent aucun risque.
C'est vraiment ça, ça a tendance à frapper de trop, on continue pas, on arrête.
La quinzaine de vendangeurs du domaine n'est pas prête de retirer bottes et caouets. La pluie va continuer de tomber dans les prochains jours.
Reportage ici, Bourgogne, le mauvais temps qui entraînera demain l'annulation de tous les bateaux vers l'île Dieu. Sur les rails, trafic très perturbé en ce moment entre Paris et Lyon. Des trains supprimés, de gros retards en raison d'un vol de câbles. Dans l'Aude, l'incendie qui a détruit près de 17 000 hectares dans le massif des Corbières est désormais éteint, annonce ce matin de la préfecture. La mort de deux adolescentes dans la matinée en Gironde à Lormont, près de Bordeaux. Elles ont été percutées par un train. On ignore dans quelles circonstances. On sait simplement qu'elles circulaient à pied. Le nombre d'enfants qui dorment normes à la rue dans notre pays ne cessent d'augmenter. Ils sont plus de 2000 selon UNICEF France et la Fédération des acteurs de la solidarité. Faute de places d'hébergement d'urgence disponibles, il y en a pourtant 203 000 de ces places, un chiffre qui est stable depuis 2021. Bonjour Sarah Saltiel-Rago.
Bonjour.
Vous avez rencontré l'un de ses enfants ce matin.
Jayed a 11 ans avec ses parents et ses trois petites sœurs. Ils ont passé plus d'un an à la rue à Lyon.
C'était vraiment difficile. Ma sœur qui a envie de dormir, qui est asthmatique, elle dort sur un morceau de carton. Toute la famille dort sur un morceau de carton. Imaginez-vous la nuit, vous savez pas qui pourra vous agresser. Vous pouvez pas se laver. Où est-ce qu'il a les fontaines de l'eau ? C'est tout. Pour manger, il faut trouver, il faut chercher.
Alors forcément, l'école, dans ces conditions, c'est très compliqué.
Du coup, je n'arrivais pas à travailler à l'école. J'étais fatiguée parce que je n'ai pas fermé l'œil de la nuit. C'était très, très, très difficile parce qu'à chaque fois que je faisais mes devoirs, il se mouillait à cause de la pluie. Du coup, j'ai eu des très mauvaises notes juste à cause de la rue.
Alors aujourd'hui, ça va mieux car ils ont un hébergement temporaire. Une situation que connaît bien Juliette Murtin, enseignante dans le primaire.
Alors, les enseignants repèrent très facilement, malheureusement, les enfants qui sont à la rue. C'est des enfants qui s'endorment en classe. C'est des enfants qui ont souvent des difficultés avec le matériel.
Engagée dans des collectifs, elle constate que cette situation s'aggrave.
Sur la métropole lyonnaise, on estime qu'on a à peu près un tiers des établissements scolaires qui sont concernés par le sans-abrisme infantile.
Alors, dès la rentrée de lundi, 15 établissements seront occupés sur Lyon pour mettre à l'abri ces familles.
Sarah Saltiel-Rago, à quelques jours de la rentrée, justement, 8 municipalités, dont Paris, Lille et Lyon, ont décidé de ne plus servir de thon dans leur cantine en cause de la contamination au mercure dénoncée par des ONG. Bonjour Sandy Dauphin.
Bonjour.
Ces communes estiment que les normes sanitaires actuelles ne protègent pas assez les enfants.
Oui, fini les sandwichs, les pâtes, les salades au thon à Mouans-Sartoux, ville des Alpes-Maritimes, précurseuse avec ses cantines scolaires 100% bio. Gilles Perrol, l'adjoint au maire délégué à l'enfance, à l'éducation et à l'alimentation, a pris cette décision après la publication de l'enquête de deux ONG sur les traces de mercure dans des boîtes de thon en octobre dernier.
On essaye d'être cohérent et de servir une alimentation qui respecte à la fois la santé et l'environnement. Et quand on a des alertes comme celle-ci, on ne peut pas la négliger. Nous, on applique le principe de précaution. On veut une nourriture la plus saine possible pour nos enfants. On voit que c'est de plus en plus difficile.
La ville de Lille aussi supprime le thon de ses cantines scolaires, 14 000 repas par jour. Pour Marion Gauthier, l'adjointe chargée de la transition écologique, la norme actuelle sur les seuils maximum de mercure autorisés n'est pas assez stricte. Elle est de 1 mg par kilo pour le thon, contre 0,3 mg pour d'autres poissons.
Le mercure, c'est un neurotoxique avec un effet sur le développement du cerveau, en particulier pour les enfants. Nous avons décidé d'arrêter de servir des produits à base de thon dans nos menus scolaires, tant que la limite maximale de mercure autorisée dans ces boîtes de thon ne sera pas rabaissée à la limite la plus stricte, comme c'est le cas pour les sardines ou le cabillaud, par exemple.
Ces 8 communes de gauche espèrent faire pression pour changer la norme à Bruxelles.
Merci Sandy Dauphin. Le temps.
La météo avec la MAE. À l'école ou en vacances, l'assurance scolaire MAE protège vos enfants par tous les temps. MAE, grandir avec assurance.
Bonjour Olivier Proust.
Bonjour Jérôme.
C'est une journée encore orageuse dans l'Est.
Avec des orages qui se développent du pourtour méditerranéen vers Grand Est. Les phénomènes les plus violents concernent surtout la Provence jusqu'aux Alpes, avec actuellement des pluies intenses, de la grêle et de fortes bourrasques. Le Var reste en ce début d'après-midi en vigilance. De l'Auvergne vers Grand Est, les cumuls de pluie seront très nettement moins forts qu'hier et cette nuit. Et dans l'Ouest, une masse d'air océanique plus fraîche progresse. Elle donne quelques averses, parfois orageuses, mais modérées, accompagnées d'un vent assez fort de sud-ouest sur la moitié nord. Les températures sont en baisse, fraîches quasiment partout, avec 19 à 27 degrés de la Manche à la Méditerranée, mais encore plus de 30 en Corse. Et à surveiller ce soir, justement en Corse, la possibilité d'orages violents.
Merci Olivier Proust, Météo France. Nous nous retrouvons à partir de 13h30 pour la suite de ce 13-14.
France Inter. Le 13-14. Jérôme Cadet.
C'est la suite de ce 13-14 consacré à ces professeurs qui s'apprêtent à rentrer. Ils sont 852 800, tout niveau confondu, public et privé, à faire leur rentrée demain. Certains dès aujourd'hui d'ailleurs. Quelles sont leurs motivations? Quels sont leurs espoirs, leurs craintes peut-être pour cette année à l'heure de retrouver leur classe? Nous en avons choisi deux de ces profs. L'une habite dans le sud de la France, à Nice. C'est sa première rentrée. Elle a 25 ans, elle va enseigner les lettres dans un lycée niçois. Bonjour Marie Béranger.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Merci également aux collègues d'ICI Azur qui assure la liaison technique. Lui nous vient du département de Seine-Saint-Denis. et d'un peu plus loin, son accent va le trahir. La ville de Saint-Denis, à 66 ans, c'est sa dernière rentrée. Il enseigne l'histoire-géographie au lycée Paul-Éluard. Bonjour Jean-Pierre Aurière.
Bonjour.
Merci
Bonjour.
D'avoir accepté notre invitation. Votre petit accent vous vient de vos racines aveyronnaises.
Exactement.
01 45 24 7000 pour tous les auditeurs qui veulent vous interroger, qui veulent témoigner aussi. C'est peut-être votre première ou votre dernière rentrée. À vous aussi, vous passez via l'application Radio France également pour vos messages. Marie, dans quel état d'esprit est-ce que vous êtes? La rentrée pour vous, c'est mardi, je crois, devant les élèves pour la première fois. Est-ce qu'il y a un peu de stress?
Oui, il y a pas mal de stress, mais j'ai passé la plupart des vacances à me préparer pour justement être moins stressée, être préparée au mieux, pour pouvoir accueillir les élèves, pour pouvoir enseigner. Et donc, même s'il y a du stress, je suis déterminée et j'espère que tout se passera bien.
Préparée comment? Comment est-ce que vous êtes préparée?
J'ai regardé les programmes parce que donc je vais enseigner en première et il y a des œuvres à choisir. Donc je les ai sélectionnées, je les ai étudiées, je les ai lues et relues et j'ai préparé toutes mes séances et toutes mes séquences.
Vous étiez au départ préparée pour une rentrée au collège, finalement c'est au lycée?
Disons que plus de ressources sont disponibles pour le collège et que ma formation nous a un petit peu plus préparés à enseigner au collège, mais on a également eu quelques instructeurs qui étaient spécialistes du lycée, donc je les ai contactés et ils m'ont un petit peu aidé pour préparer cette rentrée.
Bon, Jean-Pierre Aurière, vous savez quoi, c'est les yeux fermés, où il y a toujours un peu de trac.
Il y a toujours un petit peu de trac, oui. Alors les yeux fermés presque, oui, parce que bon, à force, je suis un petit peu rodé, maintenant c'est la 36e. Les programmes n'ayant pas changé d'une année sur l'autre, donc c'est les mêmes. Donc, ouais, j'y vais serein, vraiment serein, mais curieux, parce que curieux de retrouver des élèves, puisqu'il y en a que je vais retrouver forcément. Et puis d'autres que je veux découvrir, et voilà. Donc c'est toujours quand même un moment agréable, la rentrée pour moi, voilà.
C'est la dernière, c'est sûr?
Cette fois, oui, c'est sûr. C'est la dernière, puisque bon, l'année prochaine, j'aurai 67 ans à la rentrée prochaine, et là, au-delà de 67 ans, on ne peut plus enseigner. D'ailleurs, on me l'a signifié hier par mail, que c'était bien la dernière.
Donc là, c'est officiel?
C'est officiel, cette fois, oui, c'est vrai.
Qu'est-ce qui vous plaît tant dans ce métier?
C'est le rapport aux élèves. En fait, c'est le rapport aux élèves, c'est le fait de leur faire passer, de leur faire passer un message. Alors d'abord le programme, mais c'est ce rapport humain qui m'a toujours plu et qui m'a conduit à changer de métier, puisqu'au départ j'étais plutôt fonctionnaire stricto sensu.
Travaillez au ministère de la Défense, voilà. Dans les années 80, vous devenez prof.
Voilà, c'est ça exactement. Donc c'est pas évident hein, comme parcours, mais voilà. Et puis j'avais la volonté aussi d'enseigner en banlieue. Et voilà, et donc j'ai jamais été déçu, puisque lorsqu'on m'a redemandé si je voulais retourner au ministère de la Défense, j'ai dit non, ça va, je suis bien là, je suis bien épanoui et j'ai l'impression d'apporter quelque chose. C'est ça qui est important, qui m'a fait tenir, enfin tenir, jusqu'à maintenant, puisque j'aurais pu partir. Et en fait, je crois qu'une fois, parce que j'ai eu des élèves qui sont maintenant devenus des parents,
ouais.
Et donc j'ai eu les enfants.
Et il y en a une. Connaissez fois l'histoire des familles.
Exactement. Et il y a une maman qui m'a dit, Monsieur Aurière, merci d'être resté pour nos enfants. Voilà, donc ça fait plaisir.
Parce que certains profs ne restent pas.
Oui, il y a un turnover qui est très important.
Très problématique. Là, vous nous parlez du rapport aux élèves, Jean-Pierre Aurière. Marie Béranger, c'est aussi ce qui vous a décidé à devenir prof. Au départ, ce n'était pas forcément le métier vers lequel le métier auquel vous destiniez.
Oui, effectivement, c'est un petit peu pareil que Jean-Pierre. Au début, je voulais travailler au ministère des Affaires étrangères. J'avais déjà pensé auparavant à l'enseignement, mais je m'en suis détournée. Et c'est lorsque j'ai effectué une première expérience d'enseignement en FLE, donc en français langue étrangère et pas forcément en littérature, que je me suis rendu compte que c'était vraiment quelque chose qui me plaisait. Et surtout ce contact humain dont Jean-Pierre a parlé est fondamental, et voir évoluer les élèves à travers au cours de l'année et voir cette petite flamme s'allumer au fond de leurs yeux lorsqu'on leur apprend quelque chose d'un petit peu particulier et étrange. C'est quelque chose qui m'a beaucoup plu et qui m'a convaincue, et voilà pourquoi je suis ici aujourd'hui.
Qu'est-ce que vous avez ressenti à ce moment-là, quand vous sentez que vous touchez un élève qui est en face de vous?
Je pense beaucoup de fierté, mais également de la joie de voir qu'on réussit à toucher même des élèves qui, peut-être au début, ne sont pas forcément motivés ou intéressés.
Comment est-ce que vous vous êtes préparé à ça? Là, pour la rentrée, vous êtes prof de lettres, il va falloir convaincre les élèves d'ouvrir les livres. On dit que les jeunes sont de moins en moins, et on le constate, intéressés par la lecture. Est-ce que vous avez réfléchi à tout ça?
Oui, j'y réfléchis, mais je pense que c'est aussi une question d'adaptation. Ça dépend de la classe, des élèves. Donc, je vais essayer déjà de développer une relation saine avec eux, basée sur un respect mutuel. Et après, je pense que, après avoir mis en place ce cadre, je pourrais peut-être, au fur et à mesure, les convaincre de lire. Et je vais essayer de leur donner envie de lire, peut-être des œuvres un petit peu plus contemporaines, qui seraient plus susceptibles de les intéresser, qui seraient plus proches d'eux et des problèmes sociétaux qu'on rencontre aujourd'hui.
On constate, Marie, et le ministère de l'Éducation nationale le dit année après année, qu'il y a beaucoup de postes au concours qui restent non pourvus. On parle de violence à l'école, d'un niveau qui baisse, d'élèves difficiles. Tout ça, ça aurait pu vous décourager ?
Pas forcément, parce que, en tout cas, moi, c'est pas la réalité de l'enseignement ouais. que j'ai connu. Après, j'étais pas forcément en France lorsque j'ai enseigné, donc peut-être que ça, je changerai d'avis lorsque j'aurai plusieurs années d'expérience. Mais en tout cas, pour l'instant, c'est pas quelque chose qui me fait peur. J'ai juste hâte de voir comment ça se passe dans la réalité, justement, et de vivre ça avec les élèves, et puis je verrai au fur et à mesure.
Jean-Pierre Aurière, vous avez employé tout à l'heure le verbe « tenir ». Il fallait à un moment tenir. C'est dur ?
Ben c'est dur au fur et à mesure que les années passent. Forcément, il y a une forme quelquefois de lassitude qui arrive. Et puis, le public change. Le public change. Moi, j'ai connu, évidemment, les élèves qui n'avaient pas de téléphone, ça n'existait pas. Et donc, qui arrivaient en classe avec une écoute qui était complètement ouverte avec le professeur. Quand vous avez des élèves maintenant qui sont engorgés d'informations, de réseaux sociaux, de fake news, et puis leur téléphone en permanence, c'est plus compliqué de les intéresser. Donc il faut...
Moins attentifs, ils sont plus difficiles à capter.
Ah, oui, ils sont moins attentifs, c'est vrai. Ils sont moins attentifs, et puis on s'aperçoit que l'attention, elle est extrêmement volatile. Parce que bon, quand on est sur les téléphones et tout ça, ça défile. Et donc, quand on essaie de lire un texte un peu important, lorsqu'il y a des problématiques un peu compliquées, ben, il faut savoir mettre en œuvre d'autres procédés pour les intéresser.
Comment vous faites ?
Comment je fais ? Je fais ce que je peux. Bon, jusqu'à présent, ça a marché. Mais voilà, ça demande davantage d'énergie, davantage de créativité. Mais bon, je crois que quand on a un rapport humain très fort avec les élèves, basé sur le respect, sur l'attention et tout ça, je pense que c'est réciproque et ça fait passer beaucoup de choses.
Marie Béranger, quand vous avez annoncé autour de vous « j'ai envie d'être prof », je vais passer le concours et je veux enseigner », comment est-ce que vos proches ont réagi ?
Mes proches m'ont beaucoup soutenue et il n'y a eu que des retours positifs globalement. Aucun mot négatif. Après, je ne suis pas encore réellement je le suis, mais depuis très peu, donc je pense que peut-être qu'au fur et à mesure, les réactions seront moins positives. Je verrai bien.
Est-ce que vous avez, Jean-Pierre, un conseil à donner à Marie ? Les premières heures, les premiers moments face à une classe, ils sont particulièrement importants ?
Ah oui, les premiers moments, c'est là où tout se joue. Moi, je ne sais pas s'il y a des conseils, mais il faut toujours être soi. Voilà. Quand on est soi, quand on est à l'aise avec soi-même, quand on ne joue pas un rôle, c'est-à-dire, tiens, je vais jouer le rôle du prof ceci ou du prof cela. Quand on est soi, quand on respecte les élèves, bon, ce qui est évident, mais quand on respecte les élèves et qu'on les aime, finalement, il faut quand même aussi, si on fait son métier, c'est qu'on aime aussi les élèves. Lorsqu'on a tout ça, je pense qu'on part gagnant. On part gagnant, voilà.
Ça veut dire quoi, ne pas jouer un rôle ?
Mais c'est-à-dire, il faut être soi, complètement, et pas se dire, voilà, je suis le prof, ceci, je suis le prof, cela. Oui, on est un professeur, c'est évident, mais aussi on est un être humain, et donc il faut que ça transparaisse un petit peu, ça, l'humanité. Et donc ça, quand ça transparaît, je pense que la relation avec les élèves, enfin du moins, moi, de mon côté, ça a toujours été comme ça, j'ai jamais eu de soucis avec un élève, parce qu'il y avait le respect et tout ça. Alors, c'est compliqué. Il y a eu des classes qui étaient quand même assez compliquées. Mais des soucis comme ça avec des élèves ou des prises de bec ou des choses assez violentes, non, jamais. Ça ne m'est jamais arrivé.
Est-ce qu'il y a eu des moments où vous vous êtes dit « là, ça suffit. Ça suffit, je ne peux plus et il va falloir passer à autre chose
» Non.
Jamais.
Heureusement. Je me suis dit « non, non. Non, non, pour l'instant, bon. » Puis même si je me le dis cette année, ben voilà, mais je passerai autre chose à la fin de l'année.
Je suis pas sûr que ça arrive d'ici la fin de l'année, Jean-Pierre Aurière. Marie Béranger, vous estimez prête aujourd'hui la formation que vous avez pu recevoir ?
Oui, je pense être le plus prête possible. Mais j'aimerais juste poser une petite question.
Je vous en prie, bien sûr.
Vous avez dit qu'il fallait avant tout rester humain. Est-ce que ça veut dire que quelquefois vous avez montré vos faiblesses aux élèves ?
Oui. Oui, quelquefois. Ben, une faiblesse. Il y a deux choses. Bon, ça m'est arrivé lorsque j'ai perdu mes parents et tout ça. Lorsqu'il y a eu le frère d'un de mes élèves, dont j'étais très proche, qui a été assassiné devant son lycée. Forcément, j'ai dit à mes élèves combien j'étais peiné et j'avais les larmes aux yeux. Oui, on est aussi on n'est pas le prof in abstracto, on est aussi des êtres humains. Et de la même façon que j'ai pu accueillir aussi quelquefois des larmes d'élèves parce que ils savaient se confier. Donc, ça crée une relation qui est forte. Voilà. Mais c'est pas une preuve de faiblesse. Pas une preuve de faiblesse.
On peut pleurer devant ses élèves.
Ben, si vraiment, oui, ça peut arriver, oui. Oui, bien sûr. Oui.
C'est quelque chose que vous appréhendez, gérer vos émotions, Marie ?
Non, pas forcément, mais c'est juste que quelquefois, par exemple, je sais qu'il y a des jours où on va un petit peu au travail à reculons, et je me demande s'il faut des fois être sincère avec les élèves, leur dire directement qu'aujourd'hui on n'est pas forcément de bonne humeur, ou s'il vaut mieux garder ça pour soi et jouer un rôle devant les élèves pour continuer comme ça, sans forcément... je ne sais pas trop, je me pose certaines questions.
Jusqu'où on va dans le partage, finalement, jusqu'où on ouvre, jusqu'où on fend l'armure, Jean-Pierre Henrière.
Après, c'est au cas par cas. Hein, moi, il m'est arrivé des fois de dire aux élèves, écoutez, là, vous me saoulez, j'en peux plus, là. J'en peux plus, j'arrête de 2 minutes, là, parce que là, vraiment, c'est plus possible. Voilà. Et puis après, ça reprend. On n'est pas...
Et les élèves ne profitent pas du fait que vous avez montré cette faiblesse-là ?
Non, 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 non. Non, moi, ils n'en ont jamais profité, parce que je pense qu'il y avait un accent de sincérité. J'ai dit, bon, allez, stop, là. On arrête un petit peu, on va faire le silence, là, comme ça. Et puis, on reprend après, parce que c'est plus gérable. Voilà. Oui, c'est arrivé d'avoir des classes qui sont compliquées, surtout quand on les a en fin d'après-midi.
Mais comme vous l'avez dit, si la relation entre le professeur et les élèves est basée sur le respect, la confiance, etc., normalement, ils ne profitent pas de ce genre de faiblesse.
Non, non, à partir du moment où on les respecte, où il y a une relation humaine. Puis quand il y a un problème avec un élève, bon, ce qu'il faut ne jamais faire, c'est jamais avoir une relation un petit peu devant toute la classe si on essaie de monter au créneau, mais de dire après à l'élève, bon, viens, on va discuter après et après on discute.
Oui, parce que personne ne va vouloir baisser la tête.
Ah oui, c'est ça, il ne faut jamais faire ça. Mais après, ça s'arrange tout le temps. Voilà.
Il faut faire confiance, Jean-Pierre Aurière, aux élèves.
Ouais. Ah ben, il faut faire confiance aux élèves. Moi, quand je prends les élèves au bout du monde, heureusement, je leur fais confiance.
Alors, ouais. Au bout du monde, Marie Béranger, vous vouliez intervenir peut-être ? Puis
non,
après,
non,
on parlera du bout du monde, parce que ce sont des projets que vous portez depuis des années, Jean-Pierre Aurière. Vous emmenez vos élèves à travers le monde. Le voyage cette année, c'est ?
Cuba.
Cuba. Pourquoi les emmener aussi loin ? Qu'est-ce que ça leur apporte ?
Ah, pourquoi les emmener aussi loin ? C'est ce que me disaient souvent les gens qui financent des voyages. Ils me disaient, mais pourquoi c'est si loin ? Pourquoi c'est si cher ?
L'Aveyron, c'est très bien aussi pour emmener ces élèves de Seine-Saint-Denis.
Mais en fait, moi j'ai remarqué quand j'ai commencé à faire ça après les émeutes de 2005, je me suis dit, en fait, ces élèves qui quelquefois ne se sentent pas dans la communauté nationale, se sentent un peu rejetés, bon, les élèves de la banlieue nord de Paris hein, essentiellement, je me suis dit, en fait, si on les amène dans un pays qui a connu un conflit et qui ensuite donc a réussi à résoudre ce conflit et que j'amène mes élèves en situation de reportage dans cette problématique-là, eh bien je pense d'abord, un, que ça va leur apporter beaucoup de choses et qu'ensuite ils vont en retenir pas mal d'enseignements. Et c'est ce qui s'est passé parce que le premier voyage c'était l'Irlande où on a travaillé sur le conflit nord-irlandais et ça a été extraordinaire au niveau des rencontres et de la suite du voyage. Donc du coup, après, j'ai dit, ben, on embarque pour le reste. Et jamais j'aurais pensé, d'ailleurs, quand j'ai fait les premiers voyages, qu'on en ferait une vingtaine dans le monde entier.
Ça a tissé des liens, je suppose, extrêmement forts avec ces élèves dont vous avez toujours des nouvelles aujourd'hui ?
Ah oui, j'ai des élèves qui sont... Un qui est à Tokyo, j'ai des nouvelles régulières. D'ailleurs, j'ai été à son mariage cet été.
Vous avez invité au Japon pour son
Alors,
mariage ?
Alors non, il est venu
en Saint-Denis se marier.
Mais j'en ai un autre qui était à Shanghai, qui s'est marié à Prague. J'ai été aussi son témoin de mariage. Donc, vous voyez, avec eux, je voyage aussi. Hein. Et puis, bon, ce qui m'a le plus touché, c'est lors de ma remise de Légion d'honneur, j'avais à peu près 200 anciens élèves qui étaient là. Donc ça prouve qu'il y a des liens qui sont restés, quoi.
Donc les mois qu'ils ont passés avec vous ont changé leur vie, en quelque sorte.
Ah oui, je le dis parce qu'il y a plein d'élèves qui me l'ont dit. Ils m'ont dit, monsieur, vous avez changé ma vie.
On a tous été marqués par des profs, peut-être c'est votre cas, Marie Béranger. L'influence qu'un professeur peut avoir sur ses élèves, c'est quelque chose à quoi vous avez pu réfléchir, qui vous paraît plutôt sain ou qui peut faire peur quand on est justement cet adulte face aux enfants ?
Oui, je pense que ma réponse serait un petit peu ambivalente. C'est quelque chose qui me fait assez peur et j'aimerais pas trop, enfin je ne veux pas en abuser, mais en même temps je pense que cette influence peut être très positive. Et donc je pense que je verrai sur place, une fois que j'aurai commencé mon année, encore une fois, comment mettre en place, enfin comment être influente, mais de manière positive.
Vous avez réfléchi à des projets en dehors de, j'allais dire, du cadre du programme ? Peut-être pas aller à Cuba dès cette année, Marie, mais peut-être faire sortir vos élèves, des expositions, des films, je ne sais.
Alors, je pense que je vais le faire, mais je vous avoue qu'il y a déjà tellement de travail. J'ai déjà passé toutes les vacances à préparer mes séquences. Donc, je pense que je verrai si j'ai le temps, parce que aussi avec les premières, il y a le bac à la fin de l'année. Il faut absolument terminer le programme. Il y a 4 heures au programme. Donc, si j'ai le temps, je pense que je le ferai. Et s'il y a des pièces de théâtre peut-être qui sont intéressantes dans ma ville.
Jean-Pierre Aurière, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour cette dernière année devant les élèves ?
Bah écoutez, que ça se passe aussi bien que les précédentes, ça c'est la première chose. Puis je voulais juste rajouter une petite chose, puisque je suis à l'antenne là. J'ai un de mes élèves qui est donc en BTS, donc comptabilité, mais qui ne trouve pas d'alternance, il est désespéré. Donc je dis au chef d'entreprise de Paris ou de Saint-Denis, il est à
D'accord.
Saint-Denis. Voilà, essayez de trouver une alternance pour Erwans, parce que c'est un élève très sérieux.
En voilà. Comptabilité.
En comptabilité, voilà. Alternance en comptabilité, voilà.
01 45 24 7000, ça marche aussi.
Merci.
Et vous êtes aux côtés de vos élèves, on l'a bien compris, quand vous êtes en cours, mais pas uniquement, Jean-Pierre Aurière. Excellente rentrée à vous.
Merci.
Marie Béranger, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Vous êtes confiée aujourd'hui dans le 13-14. On pensera à vous lundi, et plus précisément mardi, parce que vous, c'est mardi. Hein,
oui, c'est mardi,
en classe à Nice. Merci beaucoup à tous les deux d'avoir partagé
merci
avec les auditeurs d'Inter aujourd'hui à quelques jours de votre rentrée. 13h47. Notre feuilleton. Cette semaine, nous sommes avec ces passagers qui préfèrent les bateaux à voile aux ferries pour se déplacer. C'est ce que propose depuis 5 ans la compagnie Les Iliens dans le Morbihan, entre Quiberon et Belle-Île-en-Mer. Une traversée moins polluante, un peu plus chère, et on en profite aujourd'hui pour faire davantage connaissance avec l'équipage.
Les filles, elles finissent de border la voile d'avant. Comme on est près du vent, il faut que les voiles soient bien bordées.
Il faut combien de personnes pour manœuvrer ce bateau ?
Jusqu'à 48 passagers, on est 2 membres d'équipage. Et au-delà, on doit être 3. Donc à 2, on peut manœuvrer le bateau. À 3, c'est plus facile. Je m'appelle Maëva Bellon. Je suis chez Ilien depuis le début de l'aventure, à partir du moment où il y a eu le bateau, puisqu'on a été chercher Saona en Méditerranée. Il faisait de la balade à la base là-bas. Le bateau a une 20aine d'années, donc ça faisait un moment qu'il faisait de la balade. Et on a ramené le bateau ensemble en avril 2021 avec Jonas et Léon. Saona, c'est un océan de voyageurs de 64 pieds, ce qui fait environ 19,50 m de long sur 10,50 m de large. C'est pas le premier maxi catamaran à être en Bretagne, mais en tout cas, c'est le premier en France à faire une liaison maritime régulière entre deux points.
Et j'étais étonnée, je ne m'attendais pas en effet à ce confort. C'est-à-dire, il est extrêmement stable.
Ça participe le fait que le catamaran soit assez large. Aujourd'hui, en plus, on n'a pas beaucoup de houle, donc c'est plutôt une traversée agréable.
Pour vous, la voile, ça a toujours été dans une optique professionnelle ou c'était un loisir à l'origine ?
Alors, la voile, à la base, c'était plutôt du loisir. Mais j'ai travaillé quand j'étais plus jeune avec les clubs nautiques. Alors, j'étais pas monitrice, mais voilà, j'apprenais avec eux. Et la révélation est quand même venue plus tard, après mes études, en disant on m'a proposé une traversée de l'Atlantique pour aller aux Antilles. Et c'était l'évidence. Alors, l'activité, elle est saisonnière, puisqu'on fonctionne de Pâques à la Toussaint. Et finalement, avec la préparation du bateau, l'hivernage, le bilan de la saison, la préparation de la suivante, c'est un travail qui peut être entre 8 et 10 mois dans l'année. Donc on peut parler de très grande saison.
Bonjour madame, c'est la première fois pour vous ?
Non, c'est la deuxième fois.
D'accord.
On a déjà fait ça une fois pour aller passer une journée sur Belle-Île. Ça nous avait bien plu. Et du coup, on recommence en famille, avec enfants et petits-enfants, pour avoir le plaisir de la voile tranquille, avec tout le confort en plus. C'est sûr qu'on ne serait pas allé à Belle-Île en ferry pour la journée. Voilà, alors que là, on se fait ce petit plaisir. Michel, de région parisienne.
Je peux vous poser quelques questions ou c'est pas le moment ?
Oui, allez-y, allez-y. Ouais. Je m'appelle Marine et je suis matelote sur Saona. Ça fait longtemps que je navigue. Après, ça fait pas si longtemps que ça que je suis diplômée, mais je suis cuisinière aussi et j'étais hôtesse sur des bateaux de charter en Polynésie et aux Antilles avant.
Comment vous êtes arrivée dans cette aventure ?
Eh bien, je suis revenue m'installer aux sources, voilà, je suis bretonne et chercher du travail dans la voile et je suis tombée sur cette entreprise, Les Iliens. Le fait de faire ces traversées à la voile, ça nous permet de respecter un peu plus la nature, de sensibiliser les passagers qui viennent à bord, qui n'ont jamais navigué.
Excusez-moi. Ouais, elle la reprend pas, j'arrive pas à mettre le mousqueton.
Ouais, alors il faut que tu montes dans le...
Ah, dans le lazy.
Il faut que tu montes dans le lazy, c'est le petit bout qui tient la corne, qui doit être un peu bloqué. Tu vois, tu tires dessus.
Troisième épisode signé Sarah Guy Baudot. On met pied à terre demain.
France Inter. Le 13-14.
C'est la France, 13h51. Le jeudi, nous parlons gastronomie avec Marie-Luce Ribaud du journal Sud-Ouest. Bonjour Marie-Luce.
Bonjour Jérôme, bonjour à tous.
Très heureux d'être avec vous pour cette troisième saison dans ce C'est la France qui débute avec la pomme. Marie-Luce, pourquoi nous parler de la pomme en cette saison ?
Oui, bon, certes, les pêches, les brugnons et le raisin remplissent en ce moment nos corbeilles de fruits. Mais comment ne pas parler d'elle alors qu'elle accomplit une immense prouesse ? Là où des diplomates échouent, où des chefs d'entreprise vont piteusement à Canossa, la pomme française, elle, tient la dragée haute à Donald Trump et à ses droits de douane. C'est quand même pas rien.
Alors comment fait-elle ?
Ceci a été très bien expliqué dans un récent article paru dans Les Échos et que je vais tenter de synthétiser car il faut saisir les flux toujours complexes des exportations et importations des produits sur la planète. Autant dire qu'on ne parlera pas aujourd'hui de circuit court. Mmh. Bon, c'est parti. Premier point, la récolte de pommes débute en France et elle s'annonce bonne, de l'ordre de 1 485 000 tonnes, légèrement supérieure à l'an dernier. Deuxième point, à contrario, les pays leaders comme la Chine et l'Inde prévoient une production en berne. Ces deux immenses pays se tournent le plus souvent vers la Turquie pour combler leurs besoins, mais ici aussi, la production s'est effondrée. Où aller ? Jusqu'à présent, l'Inde appelait les États-Unis à la rescousse. Oui, mais voilà, le 6 août, Donald Trump a frappé de 25% supplémentaires les droits de douane pour les produits indiens, ce qui les hisse aujourd'hui à 50%. Mm-hmm. Pas sûr qu'à New Delhi, on ait envie de croquer dans le poison venu de Washington. Vous comprenez donc aisément, Jérôme, pourquoi ce jeu de bonneteau ouvre des perspectives aux pomiculteurs français qui ont quelques raisons de se lécher les babines.
Et ce n'est pas la seule raison.
En effet, il a suffi de l'arrivée de Trump au pouvoir pour que des négociations qui traînaient avec le Mexique depuis 25 ans se débloquent au printemps. Les États-Unis pratiquaient un lobbying intense pour empêcher l'exportation des pommes françaises vers ce pays d'Amérique du Sud. Les premiers milliers de tonnes s'apprêtent à traverser l'Atlantique. La filière remercie donc le président américain qui n'a ni plus ni moins fait office d'épouvantail dans cette affaire.
Mais cette filière ne libère pas encore tout son potentiel.
C'est ce que souligne Pierre Vanto, directeur de l'association Pomme Poire, laquelle rassemble 75% des 1400 arboriculteurs français. Nos vergers auraient les moyens de produire 1,7 million de tonnes. Le changement climatique et une situation d'impasse dans l'utilisation de produits phytosanitaires freinent ce développement défensif, tout en reconnaissant que l'image de la pomme doit encore gagner en qualité. Elle est l'un des fruits préférés des Français, mais aussi l'un des plus traités. Depuis 20 ans, l'Institut de recherche agronomique met au point des variétés afin de diminuer de 30 à 40% l'utilisation des pesticides. Et heureusement que la recherche avance, car l'exigence augmente. L'avenir, c'est de croquer dans une pomme qui n'est plus insipide et vendue à maturité, notamment dans les grandes surfaces, insiste Pierre Vanto. La Chantecler, la Jazz ou la Pink Lady sont quelques-unes des championnes pour conquérir de nouveaux amateurs.
Ne perdons pas les bonnes habitudes. Quelle est la recette du jour ?
Voici une salade fraîche aux concombres et aux olives tirée du livre « Pom 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 » d'Amandine Gears, paru aux éditions Sud-Ouest. Pelez et épépinez deux concombres, coupez-les en dés. Détaillez 15 olives vertes et autant de noires en petits morceaux. Lavez et évidez deux pommes que vous coupez également en dés. Mélangez le tout dans un saladier avec un assaisonnement composé de deux yaourts de brebis, deux cuillères à soupe d'huile d'olive, de sel et de poivre. Ajoutez l'équivalent d'un bouquet de ciboulette débité au ciseau et vous voyez que la pomme sait aussi prendre ses quartiers d'été.
Merci Marie-Luce Ribaud en direct de Bordeaux, de C'est la France. Ah, c'est une chanson. Votre invité aujourd'hui, Frédéric Pommier, est danseur et chorégraphe. Bonjour Frédéric.
Bonjour Jérôme.
Il s'agit de Mourad Merzouki.
Mourad Merzouki qui signe une courte chorégraphie dans le spectacle immersif Le Mystère Mozart, spectacle qui se donne jusqu'au 23 novembre au Collège des Bernardins à Paris. Et avec lui, nous avons parlé de la chanson « Banlieue » de Karine Cassel.
Cette chanson, quand je l'écoute pour la première fois, j'avais une dizaine d'années, donc c'était dans les années 80. Et c'est vrai que cette chanson, elle a résonné en moi de manière évidente. Karim Cassel a exprimé les mots MAUX de la banlieue avec un certain réalisme, avec poésie, avec justesse. Et c'est une chanson qui parle de cette réalité. Quand on a grandi dans un quartier populaire, on veut, comme tout le monde, s'exprimer, partager, rencontrer, s'ouvrir. Et parfois, on n'a pas toujours les bons mots. Et dans cette chanson, il y avait comme quelque chose qui nous accompagnait vers des questions qu'on pouvait se poser. Et c'est vrai que cette chanson qui parle d'isolement, de fracture sociale, d'une jeunesse à qui on promet peu et qu'on regarde souvent avec méfiance. Cette chanson aurait pu mal vieillir, on pourrait dire qu'elle est démodée, que c'était il y a 40 ans, mais malheureusement, elle est toujours d'actualité encore aujourd'hui.
Et quand vous avez entendu cette chanson-là, vous avez eu l'impression que Karim Cassel, il parlait de vous, qu'il racontait votre histoire ?
Ah, complètement, au mot près. C'est pour ça que j'ai été touché par cette chanson.
Il regarde sa ville tranquille et il attend. Il sait qu'il est fragile, difficile et pourtant il ouvre ses grands yeux et regarde sa banlieue. Le chômage à son âge ne le
C'est en 1983 qu'est sortie cette chanson, Frédéric.
À l'époque, Mourad Merzouki vivait à Saint-Priest, dans la banlieue de Lyon.
Moi, j'ai grandi dans cette réalité, une réalité parfois dure. Mais la banlieue, c'est pas qu'un bloc homogène, c'est aussi une mosaïque d'histoire, de lutte, d'énergie créative, de survie et surtout de solidarité. Mais bon, c'était il y a 40 ans quand j'ai écouté cette chanson et les années ont passé, j'ai vu passer les politiques, j'ai écouté des discours qui évoluent, mais force est de constater que le regard aujourd'hui, en 2025, posé sur la banlieue, reste malheureusement souvent figé. Donc c'est pour ça que j'ai choisi cette chanson, parce que déjà c'est une très belle chanson, mais aussi pour rappeler que nous, artistes, notre rôle c'est de faire avec l'autre, c'est de construire ensemble, c'est d'apporter la poésie nécessaire à chacun d'entre nous.
Et c'est vraisemblablement une des premières chansons dédiées aux personnes qui habitent dans ces quartiers-là.
Oui, tout à fait. Moi, je ne reconnais pas d'autres. Et c'est pour ça, je crois, qu'elle a eu un tel succès. Parce qu'il dit des vérités, et en même temps... Il y a une forme d'élan, je ne sais pas comment vous dire ça. C'est-à-dire qu'on se dit, bon, ok, la banlieue, c'est ça. Et maintenant, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'on fait? Comment on se projette?
De café en café, avec des paumés, il passe son temps. Il se saoule un petit peu, joue avec le feu, joue aux délinquants. C'est pas qu'il soit méchant. Demandez aux parents, mettez-vous à sa place, c'est dur de faire face quand on a 17 ans.
Est-ce que le fait qu'un chanteur s'intéresse aux banlieues, aux gens qui y habitent, vous, ça vous a permis de réaliser aussi que peut-être vous valiez quelque chose aussi ?
Exactement. Le simple fait qu'il y ait une chanson, puis en plus écrite et chantée par Karim Cassel, c'est-à-dire un chanteur comme moi, issu de l'immigration. Donc pour moi, oui, il y a aussi le côté, il a su s'exprimer autour des mots, autour d'une chanson. Et donc je crois que petit, inconsciemment, je me suis dit, pourquoi moi, je ne pourrais pas m'exprimer autour du corps, du langage universel qu'est la danse.
Est-ce que vous iriez jusqu'à dire que cette chanson, elle était l'un des moteurs ?
Elle a été l'un des moteurs, pas le seul moteur, mais oui, après c'est des rencontres, puis ensuite les voyages, etc. Mais oui, ça a été une belle découverte, cette chanson, et qui m'a accompagné pour certainement devenir ce que je suis aujourd'hui.
En lieu. Karim Cassel, c'était Frédéric, le choix de Mourad Merzouki.
Mourad Merzouki, dont vous pourrez voir la nouvelle création à partir de jeudi prochain et jusqu'au 31 décembre au Bon Marché à Paris. Son titre, c'est Babel.
Merci Frédéric Pommier. À suivre Stéphanie Duncan, nos fils de l'histoire.